Bonjour et bienvenue dans FAC Décryptage, le podcast des architectes du patrimoine. Aujourd'hui, nous nous intéressons au sort de la résidence principale post-divorce au regard du régime des plus-values immobilières. Et c'est Jacques Duhem qui nous décrypte ce sujet.
Eh bien, cette problématique que nous allons aborder ensemble ici est très fréquente dans les situations qu'on va qualifier au sens générique du terme de démariage. C'est-à-dire qu'on va viser à la fois le divorce, la rupture de pacs et aussi la séparation de concubins. Le plus souvent, lorsque le couple est actif, eh bien le couple dispose d'une résidence principale qui est une résidence principale commune. Et suite à la séparation, eh bien le statut de cet immeuble va évoluer. Le plus souvent, on aura le bien qui pourra demeurer la résidence principale de l'un des deux. Le second disposant alors d'une autre résidence principale dans un autre lieu, ou on peut également avoir le cas pour lequel le bien qui était la résidence principale des deux ne sera plus la résidence principale, ni de l'un, ni de l'autre. Mais dans ces deux cas de figure, pour autant, les deux protagonistes conserveront en propriété partagée la disposition de ce bien.
Que se passe-t-il en cas de revente ultérieure?
Alors tout d'abord, on va apporter une précision importante, c'est que les solutions que nous allons envisager s'appliquent quel que soit le temps qui va s'écouler entre la séparation et la revente du bien. On peut très bien être en présence d'un bien qui sera revendu 5 ans, 10 ans, 15 ans après la date de la séparation, la date du dépacsage ou la date du divorce. Alors, on est confronté ici à une disposition du Code général des impôts qui est l'article 150U qui nous dit que pour qu'une plus-value soit exonérée au titre de la cession d'une résidence principale, il faut que le bien constitue la résidence principale du cédant ou des cédants au jour de la cession.
Et qu'en est-il justement lorsque ce n'est plus forcément le cas?
Effectivement, on l'a vu, il peut s'agir toujours de la résidence principale de l'un, mais plus effectivement la résidence principale de l'autre. Que les choses soient claires, si ça n'était la résidence principale ni de l'un ni de l'autre, la plus-value ne pourrait en aucun cas bénéficier d'une exonération. On serait dans le principe de la taxation. Le bien aurait perdu sa qualification de résidence principale et pour l'un et pour l'autre. Que se passe-t-il alors? Eh bien, le BOFIP prévoit une fois de plus une tolérance qui est applicable dans un cas de figure. Le cas de figure pour lequel l'un des ex, époux, concubins, etc., a conservé l'usage du bien à titre de résidence principale, alors que l'autre est parti vivre ailleurs. Dans ce cas, on nous dit que les deux peuvent bénéficier de l'exonération. Pour celui dont c'est toujours la résidence principale, il n'y a pas de problématique, on applique simplement la loi, hein, il a le droit à l'exonération puisque c'est sa résidence principale. Pour l'autre, ça n'est certes plus sa résidence principale, mais la doctrine administrative lui permet toutefois d'avoir effectivement le bénéfice de l'exonération. Il faut cependant respecter un certain nombre de conditions, et notamment être en mesure de démontrer que jusqu'à la date de séparation, le bien constitue bien la résidence principale des deux. Et ensuite, il va falloir démontrer qu'entre la date de mise en vente et la date de vente effective, on est dans des délais qui sont des délais raisonnables. Alors, il s'agit d'une question de fait qui sera appréciée au cas par cas. En général, on va adapter cette durée au type de bien. Il y a des biens qui sont des biens classiques sur un marché qui se vendent très vite, d'autres pour lesquels le marché est plus réduit et la vente peut prendre un petit peu plus de temps. Les juges sur ce type de dossier ont une appréciation au cas par cas pour juger du caractère effectivement raisonnable à ce niveau-là.
Il me semble que récemment un arrêt assez troublant a été rendu. Peux-tu nous en dire un mot?
Effectivement, jurisprudence plus que troublante, il s'agit d'un arrêt du Conseil d'État, donc on est sur une décision de dernier niveau qui date de décembre 2025, vous trouverez les références qui vous sont communiquées, et dans ce cas d'espèce, on est sur quelque chose d'extrêmement classique qu'on vient d'exposer, à savoir un couple a acheté une résidence principale. Ils l'ont occupé à cet usage-là pendant des années, ils se sont séparés ils ont divorcé, madame est restée dans les murs, monsieur est allé vivre ailleurs, et quelques années plus tard, ils vont revendre le bien. Assez bizarrement, dans ce dossier-là, ils sont tombés sur un agent de l'administration fiscale qui manifestement ne connaissait pas les dispositions du BOFIP que nous venons de traiter, et il a revendiqué la taxation pour monsieur de la plus-value, acceptant uniquement l'exonération sur la part de madame. En défense, l'avocat de ce contribuable a invoqué l'application de la doctrine administrative, celle qui sur le fond a été exposée il y a quelques instants, mais il s'est tout simplement trompé de référence. Vous savez qu'avant 2012, on avait une doctrine administrative qui était rassemblée dans ce qu'on appelle une documentation de base, dans des BOI. Nous sommes depuis passés sur un système de BOFIP, et il a invoqué en doctrine administrative la référence de l'ancien BOFIP, qui sur le fond donne exactement la même solution que le BOFIP actuel. Et là, on trouve que cette jurisprudence est extrêmement sévère, puisque le juge, ici au niveau du Conseil d'État, a simplement rejeté la demande du contribuable en indiquant qu'il n'avait pas indiqué la bonne référence. C'est sévère, puisque sur le fond, il avait bien droit à cette exonération. Donc si on invoque la bonne doctrine administrative, il n'y a pas de problème, les deux peuvent continuer à bénéficier de l'exonération.
C'était Fac Décryptage, le podcast des architectes du patrimoine. Merci de votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.